Tout de suite, retrouvez l'invité du jour avec Charlotte.
Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yves Griot, qui est président de l'association France Victimes Carcassonne, dans le cadre demain de la Journée internationale des droits des femmes. Bonjour à vous.
Bonjour madame.
Alors avant de parler de cette journée de demain, je vais peut-être vous laisser vous parler un petit peu de l'association que vous présidez, de vos objectifs et puis de vos actions, pas seulement pour demain, mais tout au long de l'année.
Bien sûr, je vous remercie de me donner la parole et d'exposer à vos auditeurs l'objet et les missions qui sont confiées à France Victimes Carcassonne et plus largement France Victimes Nationale. Ce réseau France Victimes est né d'un grand événement qui a marqué notre société. Cet événement a eu lieu le 9 octobre 1981 et il s'agit de l'abolition de la peine de mort. À cette époque-là, l'autorité judiciaire, le garde des Sceaux, qui était M. Badinter, s'est aussi occupé et préoccupé du sort réservé par la justice aux victimes. Et dans ce cadre, et après des enquêtes et des rapports qu'il a sollicités, notamment auprès du professeur Méliès, est né un réseau France Victimes. J'ai résumé très rapidement la genèse. Venons-en au fait. France Victimes Carcassonne est une association loi 1901 qui est agréée par le ministère de la Justice. Il y a deux associations agréées par le ministère de la Justice sur le département de l'Aude. Il s'agit de nos homologues narbonnais, France Victimes Narbonne et France Victimes Carcassonne. Donc agréées par le ministère de la Justice et France Victimes Carcassonne est la seule association d'aide aux victimes à être délégué du procureur de la République. Nos missions, pour simplifier, pour schématiser, sont doubles. La première mission, je qualifie ça d'une mission ouverte. Notre mission première est de venir en aide aux personnes victimes de délits. De tout délit. C'est un délit qui peut être une infraction, une agression, un vol à l'arraché, un cambriolage, une usurpation d'identité, une escroquerie pour diverses formes, notamment par le biais de l'outil Internet, les violences intrafamiliales, bien évidemment, qui nous préoccupent beaucoup, et également les victimes d'attentats terroristes. Et France Victimes a été au premier rang lors des attentats terroristes de Trèves, et les victimes également des règlements climatiques, des catastrophes climatiques, je pense notamment aux inondations. Donc nous venons en aide à toutes les personnes victimes de délits qui viennent nous voir, soit parce qu'elles nous connaissent par la presse, par le biais notamment du réseau radio que vous portez, par le biais de nos permanences que nous avons au commissariat de police de Carcassonne le lundi matin, par le biais de la permanence que nous avons au tribunal, le bureau d'aide aux victimes de Carcassonne, le mardi matin et le vendredi matin, par le biais de notre permanence que nous avons au centre hospitalier de Carcassonne, dans l'unité médico-judiciaire, toutes ces personnes viennent nous voir et nous les aidons dans leur démarche, dans leur problématiques, leurs difficultés qu'elles rencontrent avec le fonctionnement de la justice. Je précise tout de suite que nous ne sommes pas avocats et nos missions d'information et d'éclaircissement s'arrêtent là où commence celui de l'avocat. Donc un soutien juridique. Ce soutien juridique est assuré par une salariée, un juriste, qui est docteur en droit. C'est, je crois, utile de le souligner, dans un soutien juridique et un soutien psychologique quand cette personne est atteinte de problématiques touchant son équilibre psychologique. Étant précisé que toutes ces missions sont gratuites. Notre psychologue est psychologue clinicienne, diplômée d'État, spécialisée en criminologie. Voilà très succinctement dressé les missions que je qualifie de missions ouvertes. À côté de cela, nous avons des missions que je qualifie de missions fermées, et qui fermées parce que nous sommes mandatés par l'autorité judiciaire. Quelquefois, ces missions ouvertes et fermées se confondent, mais ces missions mandatées en qualité de délégué du procureur de la République sont très importantes et sensibles. J'en énumérerai les principales. Nous sommes chargés d'effectuer des enquêtes sociales rapides qui s'inscrivent dans le cadre des comparutions immédiates. Notre mission est d'interroger un prévenu qui va être déféré dans les prochaines heures devant un tribunal correctionnel et de dresser une enquête sociale. Quel est son profil social, à savoir d'où vient-il, que fait-il et quels sont ses projets d'avenir. C'est une mission qui est très importante car à défaut d'être remplie, la procédure de comparution immédiate ne peut être menée à bien. Première mission donc qui nous est confiée. La deuxième mission est une mission excessivement sensible qui a été activée depuis 2 ans environ et que nous appelons des évaluations aux victimes qui touche le domaine des violences intrafamiliales. Toutes les fois qu'une personne va déposer plainte en commissariat, gendarmerie, et que l'OPJ ou l'APJ sent que cette personne a besoin de mesures de protection, il la réfère au procureur de la République, et ce dernier nous saisit, à nous, en nous demandant d'interviewer n'est pas le mot exact, de nous entretenir avec cette personne dans les plus brefs délais, de savoir quelles sont ses craintes et de savoir si elle a besoin de mesures de protection qui lui seront attribuées par la justice. Nous avons un rôle essentiel puisqu'il faut être très réactif, très attentif aux propos et être bien documenté et bien affirmatif et avoir des éléments pour proposer au procureur des mesures de protection qui peuvent être, vous avez sûrement entendu parler, le téléphone en grand danger, le bracelet anti-rapprochement et d'autres mesures de protection. Notre troisième mission, je vais être plus rapide, il s'agit de contrôle judiciaire que nous effectuons, il s'agit d'enquête de personnalité que nous effectuons également. Nous organisons des stages de citoyenneté, qui ne sont pas des stages mais des peines que nous faisons accomplir. Nous organisons des stages de sensibilisation aux produits, à la consommation des produits stupéfiants, qui sont également des peines. Nous diligentons quelquefois des médiations pénales, je dis quelquefois parce que elles s'amenuisent, nous sommes moins saisis. Nous intervenons également en milieu scolaire pour ces actualités, pour sensibiliser ce jeune public sur le harcèlement. Nous informons les victimes, ça aussi c'est une tâche très délicate, de la libération prochaine des auteurs, qui vont être libérés dans les prochains jours, et nous les informons, nous portons ce message, et nous leur demandons si elles ont besoin également de mesures de protection spécifiques. Nous effectuons également des missions qui sont pas très faciles. Il y a quelquefois des classements sans suite qui sont ordonnés par l'autorité judiciaire, dans des contextes bien particuliers et qui méritent explication. Le procureur de la République a jugé utile de nous confier ses missions d'information. Il nous adresse la procédure et nous expliquons à la personne pour quelles raisons cette procédure a été cassée sans suite. Et je me répète, ce sont des situations sensibles où il y a quelque part des violences, des viols, des incestes et des décès de jeunes victimes. Et nous les informons, nous leur faisons part des moyens de recours sur lesquels elles peuvent opter, et si elles ont besoin d'un soutien psychologique, nous intervenons pour essayer de les ramener à une meilleure fortune. Et enfin, nous avons une spécificité propre à France Victime, dans la mesure où cette personne victime de violence intrafamiliale est en situation de danger imminent, nous leur offrons ce que nous appelons un bracelet APL. C'est un dispositif de protection que nous finançons grâce aux subventions de la préfecture du département de l'Aude, et qui permet, dans l'attente de protection beaucoup plus efficace et officielle, bracelet anti-rapprochement et téléphone de grand danger, nous leur proposons une application qui s'appelle APL. Si vous souhaitez, je peux vous en donner le détail, mais il y a peut-être d'autres points sur lesquels vous souhaitez nous interroger. Voilà, en gros, madame, quelles sont les missions essentielles que nous effectuons. Ceci grâce à 4 salariés, une directrice, une juriste docteur en droit, je me répète, une psychologue clinicienne diplômée d'État et une secrétaire. Et le tout renforcé par un réservoir de 5 ou 6 bénévoles ayant des connaissances approfondies de par leur profession antérieure dans le monde de la justice et conforté par des stages de formation que notre fédération France Victimes Paris nous offre. Madame, je suis bavard, voilà en gros ce que fait France Victimes Carcassonne, cela depuis pas mal d'années, depuis 1980.
C'est très important,
voilà, madame,
de, oui, de remettre des mots sur tout le travail que vous effectuez. C'est un travail, donc, si je peux résumer un petit peu, qui est parallèle et complémentaire à celui de la justice.
Tout à fait. Vous avez
une neutralité et, j'ai envie de dire, une certaine bienveillance face aux victimes qui est nécessaire, et un accompagnement qui va au-delà de celui de la justice.
Madame, si tant nos salariés que nous bénévoles nous engageons dans une association aide aux victimes, c'est que quelque part il y a une sensibilité particulière. Oui, je confirme vos propos, nous avons une attention toute particulière pour les victimes. Étant entendu, madame, je tiens à souligner qu'on ne peut comprendre et essayer d'être le plus constructif possible vis-à-vis d'une victime que si malgré tout on a une certaine approche de l'auteur des faits. Je reviens notamment à cette problématique de violence faite aux femmes. Bien évidemment que notre mission première est de venir en aide à cette personne qui est victime de violence, mais il y a aussi un auteur. Et cet auteur, dans le cadre de nos missions que nous effectuons, notamment nos enquêtes sociales rapides, nous sommes confrontés à des auteurs qui, dans le cadre de cette enquête que nous faisons de façon à mieux les connaître, nous apportent des informations qui, quelquefois, nous interpellent et peut-être nous permettent de venir en aide par ces informations-là à la victime. Je m'explique. Il se trouve bien souvent que cet auteur de faits, notamment de violences intrafamiliales, quand il nous raconte sa jeunesse, son passé, bien souvent, et je dis bien souvent, nous nous rendons compte que cette personne adulte, quand il était mineur, enfant, était victime d'un comportement difficile dans son contexte familial. Ce comportement dans ce contexte familial l'a bien évidemment façonné. Qui n'a pas dit un jour, tiens, ce petit garçon, cette petite fille, il ressemble à son père, il a les mêmes attitudes, peut-être les mêmes intonations. Inconsciemment, par mimétisme, ce petit garçon prend des informations venant de son papa et inconsciemment se rend compte que par la violence, on obtient des choses. Par la violence, on obtient satisfaction. Et pour résumer mes propos, cette victime, cette malheureuse victime, quand il est gamin, malheureusement, devient auteur quand il est adulte, parce qu'il a vécu dans ces milieux-là. Donc oui, notre mission est très sensible, extrêmement sensible aux victimes, mais on peut mieux comprendre les victimes, quelquefois, quand on côtoie également les auteurs. Je vous écoute, madame.
Et vous êtes particulièrement lié, vous en reparlez, aux violences intrafamiliales et aux violences faites aux femmes qui sont malheureusement souvent liées. Oui, parlez-nous un petit peu plus de vos actions qui vont pour protéger ces femmes et ces familles, puisque c'est un tout. Oui. Alors, pour les protéger, pour les aider au quotidien.
Je vais développer votre question, madame. Donc nous recevons dans le cadre de notre mission ouverte des personnes, des dames. Pour l'essentiel, nous avons reçu deux ou trois messieurs, mais je referme la parenthèse, nous recevons des dames qui nous font part de situations. Quelquefois, bien souvent, elles nous disent « j'ai déposé plainte, qu'est-ce qui va se passer ?» Donc, on leur indique la procédure qui va se dérouler, on leur indique les moyens de protection qu'elles peuvent réclamer, le bracelet anti-rapprochement, le téléphone de grand danger. Nous leur proposons notre application dans l'immédiat, elles peuvent repartir avec appel elles. Voilà un exemple. Mais nous recevons aussi, madame, des personnes qui nous disent « je suis victime de violence, mon mari est violent avec moi, physiquement, psychologiquement ». Mais je ne veux pas déposer plainte. Et on essaie de savoir, de connaître la motivation, tout en respectant bien évidemment la personne. Et les réponses qu'elles nous avancent sont les suivantes. Je ne veux pas déposer plainte parce que j'ai peur des représailles. Je ne veux pas déposer plainte parce que je ne voudrais pas que mes enfants me reprochent plus tard d'avoir traîné papa devant une instance judiciaire, devant un tribunal. Et ces échos, madame, il faut les rattacher à ce que je disais antérieurement. Et on leur dit, bien sûr, madame, cette appréciation que vous avez est honorable, mais vos enfants ne souffrent-ils pas? Ne sont-ils pas eux-mêmes victimes directes? Quelquefois, des gifles, elles ont grande amplitude. Victimes indirectes, ils se rendent compte, ils souffrent de ce malaise. Et ce malaise, il a des redondances sur leur activité scolaire, leur absence, leurs mauvais résultats scolaires. Donc réfléchissez bien, vous rendrez peut-être service à vos enfants de porter plainte. Et puis la troisième observation qui est évoquée et que nous recevons bien sûr, ces personnes-là nous disent, mais monsieur, ou madame, on essaie que ce soit des dames qui entendent ces propos. Monsieur, madame, j'ai encore des sentiments pour mon agresseur. Et ça, c'est difficile pour nous. Et on essaie d'inciter ces dames, bien sûr, à faire avancer leur protection. Il n'y a qu'un dépôt de plainte qui peut le faire avancer de manière très concrète. Et puis, on essaie de leur dire, attention, madame, vous avez déposé plainte pour des faits qui sont graves. Prenez-en bien conscience et réfléchissez si un jour, vous voulez, pour des raisons diverses, honorables, retirer votre plainte ou alors pardonner. Et je vous assure, madame, ce ne sont pas des hypothèses d'école que j'avance. Bien souvent, des personnes qui ont déposé plainte et qui font l'objet de protection viennent nous dire, ben, écoutez, j'ai bien réfléchi, ou alors en accord avec mon compagnon, ben, on a décidé de renouer une vie en commun. C'est leur choix, mais on leur dit, avez-vous bien réfléchi? Êtes-vous consciente de cette situation? Et ça, madame, c'est des propos que nous rencontrons, je dirais pas très souvent, mais qui ne sont pas occasionnels, à savoir des personnes qui, pour des raisons diverses, font marche arrière. Et ça m'interpelle un peu, ça nous interpelle un peu. Et puisque je parle des violences intrafamiliales, l'objet de notre discussion d'aujourd'hui est de souligner d'un trait fort la journée de demain, du 25 novembre, qui est une journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une journée qui va être portée par beaucoup d'organismes sur tous les pays d'Europe. Et bien évidemment, la France, et plus particulièrement le département de l'Aude, va prendre des initiatives fortes. Et je vais en souligner deux, hormis la mienne, qui est accessoire, je vais en souligner deux qui, je crois, me paraissent intéressantes de souligner. Le conseil départemental du département de l'Aude va diffuser aujourd'hui même et demain ce que nous appelons un violentomètre. Un violentomètre, c'est difficile à le décrire par la parole sur une chaîne de radio. Imaginez-vous, madame, une échelle. Et sur les barreaux de ces échelles sont inscrits des situations. Ces situations, le barreau le plus bas de l'échelle, c'est respecte les décisions et les goûts, accepte tes amis et ta famille, a confiance en toi. Tout ça, c'est en vert. Puis ces barreaux se transforment en orange, contrôle tes sorties, habits, maquillage, fouille les textos, t'isole de ta famille. Et cette échelle se termine par des échelons en rouge, à savoir, il t'impose les pratiques sexuelles, il t'enferme chez toi, il te coupe de ta famille, il te menace de mort, il se menace de suicider. Ce violentomètre a pour objet d'interpeller les personnes de façon à se poser la question, où est-ce que j'en suis? Bien souvent, ces personnes sont, quelquefois, ces personnes sont le déni. Et puis, il y a de l'amour propre. Ces personnes-là ont eu des moments de grande tendresse, d'amour, avec leur compagnon violent. Donc, l'ego est affecté. Et elles disent, non, je peux pas. Elles sont dans le déni. Et puis, peut-être que ces phrases inscrites sur ces barreaux d'échelle vont les interpeller. C'est là une des premières décisions du conseil départemental et vous allez voir fleurir dans beaucoup de lieux publics ces violentomètres. Et ensuite, une chose que j'apprécie tout particulièrement, la gendarmerie nationale, mais oui, la gendarmerie nationale a également des actions en matière de violence intrafamiliale, a fait imprimer, éditer des poches qui emballent la baguette de pain que nous allons chercher dans le boulanger de quartier et autres, qui jusqu'à présent peut-être faisaient de la publicité pour une marque de farine ou autre. Désormais, ce violentomètre va être imprimé sur cette poche papier et au-delà du violentomètre, il sera indiqué quelques numéros d'appel d'urgence, des numéros nationaux qui seront ouverts aux personnes victimes de violences et également des numéros locaux, bien évidemment France Victimes Carcassonne, mais nous ne sommes pas le seul secteur associatif à être sensible à cette problématique. Il y aura France Victimes Carcassonne, mais également le centre d'information sur les droits des femmes et des familles du département de l'Aude. Voilà une action forte qui sera portée demain.
Jérémy, vous nous expliquez pourquoi, pour tous, qu'on soit victime de violence ou non, cette journée est importante et pourquoi est-ce que des associations comme la vôtre ou même la gendarmerie, vous l'expliquez, y apportent autant d'importance et les mettent tant en valeur. Pourquoi ces journées sont importantes?
Pourquoi? Parce que depuis quelques mois, quelques dizaines de mois, les statistiques marquent une progression dans les violences intrafamiliales. Alors, cela interroge. Dans un premier temps, on a pensé que la COVID, l'isolement des personnes, avait motivé une recrudescence des violences intrafamiliales. Personnellement, et je ne suis pas le seul à le partager, je ne pense pas que ce soit l'explication profonde de l'augmentation des violences intrafamiliales. Je pense davantage, et je me répète, je ne suis pas le seul, au fait que la parole s'est libérée. Il y a eu plusieurs mouvements portés dans les grands médias de violences sexistes dans divers milieux, des personnes particulièrement violentes sexuellement parlant qui ont marqué l'actualité. Et je pense que ces personnes, inconsciemment, se sont dites mais je ne suis pas la seule à être dans cette situation. Jusqu'à présent, je n'osais pas parler pour de multiples raisons, parce que c'est difficile de faire état d'une vie intime. Un policier, un gendarme, étant précisé que ces policiers, ces gendarmes sont formés pour mettre à l'aise ces personnes, pour les aider à parler. Et entre parenthèses, France Victime, quelquefois, accompagne la personne qui va déposer plainte en commissariat, à la demande bien évidemment de la victime, l'accompagne pour la mettre en sécurité face à des propos d'un policier, d'un gendarme, qui sont quelquefois techniques, mais je me répète, ces policiers, ces gendarmes ont été formés, ont une formation spécifique. Alors pourquoi l'accent sur cette journée du 25 novembre? Parce qu'il faut que l'on diffuse l'attention toute particulière portée aux autorités constituées, comme l'on appelle, ou au monde associatif, de manière à faire connaître à ces dames, pour les essentiels, ce sont des dames qui sont victimes de violences intrafamiliales, que cette problématique a été prise en considération et que nous attachons tous à essayer d'améliorer cette situation. Et voilà pourquoi cette journée du 25 novembre mérite d'être soulignée. Et ces violences intrafamiliales, madame, c'est une problématique qui est très large. J'évoquais la présence des enfants qui sont victimes directes et indirectes. Il y a également des groupes de réflexion, un groupe de travail qui se réunit en préfecture pour voir ce que l'on peut apporter à la détection de l'incidence de ces violences intrafamiliales sur les enfants. Et ça, c'est très net, il y a des redondances, je me rappelle, sur le comportement scolaire. Donc, violence intrafamiliale, il y a un autre aspect aussi qu'il faut prendre en considération, et ça, c'est une expérience de terrain que je rapporte. Dans le cadre de mes enquêtes sociales rapides que j'effectue en milieu carcéral, c'est-à-dire en commissariat de police ou en gendarmerie, on interroge le prévenu pour de façon à essayer de mieux le connaître. Et madame, je n'ai pas des statistiques aiguës, mais je peux m'engager en disant que dans environ 60% des cas, cette personne qui a commis un délit était sous l'emprise d'un produit stupéfiant. Je tiens à préciser que ce n'est en aucun cas une excuse. Au contraire, c'est une situation aggravante. Mais là aussi, il y a une problématique. Là aussi, il faut peut-être que nos autorités, notre pouvoir décisionnel s'interroge sur la présence, sur la consommation de produits stupéfiants qui, quelquefois, aident à passer à l'acte. Et cette personne qui a commis ce délit, ce jour-là, il avait trop consommé. Il avait trop consommé. Et je ne sais pas si vous savez, parce que le grand public l'ignore. C'est pas la peine de chercher vers des produits stupéfiants, cocaïne, cannabis et autres produits. Il faut savoir que le premier produit stupéfiant consommé en France, c'est l'alcool. Donc, il y a également une sensibilisation à faire contre les addictions pour l'alcool et bien évidemment les autres produits stupéfiants qui s'inscrivent tout à fait dans cette problématique des violences intrafamiliales. Et il y a matière à travailler sur ces aspects-là. Mais je me répète, et pour conclure, si vous le voulez bien, cet aspect-là, nous recevons des personnes, des dames qui sont en situation très, très, très difficile. Alors, nous avons des situations qui nous interpellent et qui vraiment nous émeuvent au plus profond de nous, et nous essayons autant que faire se peut, avec tous les moyens que nous avons, et en échangeant des informations. Il y a plusieurs associations d'aide aux victimes. Nous entretenons des relations étroites avec tous nos partenaires de façon à apporter le maximum de réconfort à la personne qui vient nous voir et à l'encourager. C'est quelque chose que je rencontre de plus en plus. Elle le veut bien, à persister dans cette décision et ne pas se laisser influencer par un comportement peut-être larmoyant du compagnon qui dira « mais je vais changer » et autres. Écoutez, je croise les droits, je l'espère, mais qu'elle réfléchisse bien avant de faire marche arrière. Voilà, madame, l'importance que je porte à cette journée du 25 novembre, qui, pour la petite histoire, cette date du 25 novembre n'a pas été choisie au hasard. Il faut remonter au 25 novembre 1999, où trois sœurs, une famille Mirabel, militante dominicaine, ont été assassinées par le pouvoir politique de l'époque. Et on veut marquer cette lutte, ce sacrifice de ces trois personnes. On n'en est pas un drame aussi sanglant, mais quelquefois, madame, il s'agit de situations, de drames vraiment sanglants. Un passé récent l'a évoqué, d'où l'attention toute particulière, notamment que nous portons dans nos missions évaluation aux victimes. Nous recevons une personne qui vient de déposer plainte, on la fait parler, on essaie de mieux la connaître, on essaie de mieux connaître le comportement de l'auteur, et fort de ces arguments avancés, on propose au procureur de la République, à madame la procureure de la République, en l'occurrence à Carcassonne, des mesures de protection, bracelet anti-rapprochement, téléphone de grand danger, et nous offrons également, si on le juge urgent, notre application Appel-Aide, qui est quelque chose qui est très apprécié de la part des victimes.
Je suis bavard, madame. Merci beaucoup de nous avoir présenté tout ça. Dites-moi, où est-ce qu'on peut retrouver un peu toutes les actions qui faites par France Victimes Carcassonne?
Bien sûr. Alors, madame, France Victimes Carcassonne a un site internet, donc il vous suffit d'aller sur un moteur de recherche France Victimes Carcassonne et vous tomberez sur notre site. Et nous avons également un numéro de téléphone qui est le 06 30 37 60 62. Notre adresse est le 10 rue Fédoux à Carcassonne, c'est derrière la sécurité sociale, cela jusqu'au 31 décembre 2022. Et à compter du 1er janvier 2023, nos locaux seront situés 6 rue du Palais. Pour les Carcassonnais, ça va leur dire quelque chose. C'est l'immeuble qui abrite encore la Mutualité Sociale Agricole, MSA. Nous occuperons le deuxième étage d'une aile de la MSA aux 6 rue du Palais, où là, nous recevrons les victimes qui souhaitent nous rencontrer. Et je me répète, je saisis l'opportunité que nous offrez. Nous recevons également au Palais de Justice le bureau de nos victimes le mardi matin et le jeudi matin. Nous recevons, mais là, sur réquisition de la justice, à l'hôpital de Carcassonne, au centre hospitalier de Carcassonne. Mais notre site internet permettra à vos auditeurs de retrouver des termes beaucoup plus précis que mes propos, tout ce que France Victimes Carcassonne peut apporter aux victimes, et je me répète, de toute nature, de délits, violences intrafamiliales, et nous avons eu, pourquoi le cacher, une action très forte en faveur des victimes des attentats de Trèbes. Nous avons quasiment toutes reçues. Nous avons apporté un soutien juridique et psychologique. Nous en recevons encore deux. Et nous avons également une action très forte en matière en faveur des sinistrés et des inondations qui ont suivi quelques mois après cet attentat.
Merci beaucoup. N'hésitez pas à contacter cette association France Victimes qui est là pour vous aider, pour vous accueillir et puis pour vous accompagner dans certaines démarches qui peuvent sembler difficiles, voire submergentes. Donc n'hésitez pas à les contacter. Ils sont réellement là pour vous. Merci beaucoup Yves Griot d'avoir été à l'antenne avec nous aujourd'hui et puis de nous avoir présenté le travail de toute cette association, alors locale et puis aussi nationale.
C'est moi qui vous remercie, madame. Merci infiniment.
C'était l'invité du jour, une chronique à retrouver sur le site radiomarseillette.fr.